17h30, vous écoutez Radio Campus Paris. C'est une très bonne idée. Vous retrouvez tout de suite petite consultation entre amis.
Petite consultation entre amis, l'émission santé complètement déjantée de Radio Campus Paris.
Bienvenue à toi, cher patient, dans le cabinet de consultation un tout petit peu déjanté de Radio Campus Paris pour une émission spéciale stress.
Stress.
Dans lequel nous disséquerons l'actualité. On commencera par comment bien gérer son stress. La piqûre de rappel sera consacrée à l'agoraphobie. Et l'expression rigolote, ça veut pas du tout. Et l'expression rigolote, eh bien, sera faire un burn-out.
Un burn-out.
On est vraiment drôle. Ouh. Et on finira par les temps attendus, bref, de salle d'attente. À vos stéthoscopes, la consultation peut commencer.
Docteur, paraît que vous êtes docteur. Parce que malade, paraît que je suis malade.
Et on ne se quitte plus sur le plateau de Radio Campus Paris. Salut docteur Marion.
Bonsoir,
comment allez-vous?
Bonjour, tout ça. Ça va, pas trop stressé.
Vous prenez l'accent canadien. J'ai l'impression qu'on a été formé par le même canadien qu'on salue.
Je pense. Salut Normand.
Le stresseur. Salut docteur Léo, vous êtes stressé?
Je suis plutôt détendu ce soir.
Détendu ce soir.
Petite ambiance.
Voilà, petite ambiance. Cette voix. Il y a toujours cette voix caverneuse hein, qui fait un peu peur quand même, docteur Léo. Viens dans ma caverne. Salut, docteur Guillaume.
Bonjour, bonsoir.
Comment allez-vous, docteur Guillaume?
Vous faites très peur tous aujourd'hui.
Oui, j'ai l'impression qu'on vous stresse un peu, docteur Guillaume.
Vous êtes stressé.
On va justement en parler.
Détendez-vous.
Et justement, avant de stresser, on n'a qu'à se faire un petit tour de l'actu santé.
Alors l'actu de la semaine, c'est un petit coup de pub à nos confrères de Psylab.
Eh oui, Psylab, c'est une chaîne YouTube
qui vise à explorer le monde de la psychiatrie et celui du cinéma, des séries télé et des jeux vidéo.
Alors en gros, hein, vous l'avez entendu, l'idée est aussi sympa que drôle. C'est très très drôle. S'appuie sur des extraits de films, de séries TV pour expliquer certaines maladies psychiatriques. Bah, alors le son fait un peu saigner les oreilles, hein, c'est hashtag je fais des émissions du fin fond de mon garage. Mais les sujets sont vraiment traités de façon sérieuse mais décontractée. Alors ça parle pas trop technique, ça jargonne pas trop entre spécialistes et ça cartonne plutôt pas mal. 800 000 vues sur YouTube et déjà 35 000 abonnés, on en rêve. Hein.
Oui, on en rêve, j'ai 800 000.
On se dit que si on leur fait de la pub, ils nous font de la pub.
Exactement. On compte sur eux.
Alors, ce qu'il y a de drôle, hein, quand même, dans le duo des deux psychiatres, c'est que
quand même.
Quand même, oui, il y a quand même quelque chose de drôle.
Exactement. C'est que l'un est l'ancien étudiant de l'autre. Qu'est-ce que c'est drôle.
Bah, dis-donc, on rigole.
On se marre. Voilà. Et comme on parle de stress cette semaine, on vous a sélectionné un extrait sur le PTSD qui est le
Post-traumatic syndrome disorder.
Pas mal, hein, autrement dit, le syndrome de stress post-traumatique pour les francophones. Et comme ça qu'on en vient à parler de notre chauve-souris préféré.
Deux souvenirs traumatiques hantent Bruce Wayne. Le meurtre de ses parents, bien sûr, mais également la scène d'ouverture du film. Sa rencontre avec ce qu'on pourrait nommer l'animal totem de Bruce Wayne, la chauve-souris.
Quite a fall, didn't we, Master Bruce?
And why do we fall, Bruce? So we can learn to pick ourselves up.
C'était donc écrit, Bruce Wayne ferait de ses blessures une force mise au service de la justice.
Alors, je sais pas si vous saviez, vous, que Batman avait un syndrome de stress post-traumatique.
Pas du tout.
Ah,
pas du
tout. Tout s'explique.
Voilà.
C'est beau. Voilà, moi, je comprends beaucoup de choses. Hein. Si vous avez un petit coup de grisou, comme vous, docteur Guillaume, ce soir, allez voir l'épisode sur le suicide, qui est particulièrement brillant. C'est vu sur certains films comme The Virgin Suicide. Voilà, et pour le fan des silence des agneaux, sachez qu'il faut un épisode cet été spécial sur un sujet un peu de la balle.
Et qui est le sujet, monsieur?
C'est le psychiatre Hannibal Lecter.
Hannibal le cannibal.
Ne lui dévoilez surtout rien de personnel. Ne lui laissez pas franchir la porte de votre inconscient. Interrogez-le, mais n'oubliez jamais ce qu'il est.
Hannibal, vous voulez nous le faire, vous, Hannibal le cannibal?
Hannibal le cannibal?
Oh. Pas mal. Vous saviez, vous, que Hannibal était psychiatre?
Oui.
Non, moi, je me souvenais pas du tout.
Ouais, non plus.
Un truc de fou, hein, j'ai envie de dire.
Ah ouais, gros truc, ouais.
J'ai surtout l'impression qu'on continue, d'ailleurs, dans les trucs de fou.
Ouais, alors cette fois, c'est un peu une histoire de foufou, hein. C'est une histoire de chien, de cancer et de truffe. Alors quand je parle de truffe, hein, je parle pas d'Isabelle Fromentin, qui est docteur en sciences, et qui travaille actuellement sur une nouvelle technique pour dépister le cancer du sein chez la femme. femme grâce à Rintintin, un chien dressé pour reconnaître l'odeur du cancer. Alors là, Isabelle est donc partie du fait que les plaies tumorales avaient des odeurs bien particulières et elle s'est dit, pas folle la bête, je vais dresser des chiens pour reconnaître cette odeur de la mort et faire du dépistage actif. Alors l'idée est sympa et avec son équipe à l'Institut Curie, ça court derrière la balle et s'adresse des Rintintins.
Il court ce chien là. Il est où ce con de chien là maintenant?
Bon, et plus sérieusement, ça pourrait être une excellente alternative à la mammographie et même être utilisée pour d'autres cancers comme le cancer des ovaires. Bon, alors, ne nous enflammons pas quand même. Hein. Ouais, j'ai envie de dire un peu coucher Rex parce que pour l'instant, on ne sait pas du tout si ça va fonctionner. Reste à savoir si Isabelle et son équipe canine auront du flair sur ce coup-là.
Ouais, c'est pourquoi pas un cochon quoi, ouais, comme les trucs, pas,
voilà.
Quoi.
Non, mais exactement. Donc voilà, bon, en tout cas, à suivre, ça pourrait être une très très bonne idée si jamais ça marche. Ouais. Allez, on va s'arrêter sur les actus hein, pour cette fois.
Merci.
Et donc, docteur Guillaume, la bonne santé, c'est quand on entend votre voix, et la bonne santé, c'est de vivre sans stress.
C'est ça, oui, voilà.
C'est ça, oui. C'est très court.
C'est très, très court. La vie sans stress, c'est mieux. Alors, boule au ventre, main moite.
J'adore vos lancements.
Bouffée de chaleur, si cette sensation vous sont familières, vous souffrez peut-être du mal de siècle. Il peut apparaître avant un examen important, avant un premier rendez-vous, voire même avant le deuxième rendez-vous quand le premier s'est mal passé. C'est pas docteur Loïc.
Le stress.
Mais comment gérer et atténuer le stress.
Voilà. C'est vrai ça. Alors des solutions naturelles.
D'ailleurs naturelles parce que je suis très naturel.
Oui,
c'est connu. Depuis le temps, voilà, je suis à fond dans le naturel. Alors si votre sommeil, par exemple, est perturbé par un trop grand stress, comme le docteur Marion, ça là. Alors il faut. Ouh là là, attendez.
Oui, le stress.
Calmez-vous.
Donc si votre sommeil est perturbé par un trop grand stress, il va falloir utiliser l'huile essentielle de camomille noble. Voilà.
Ah, la noble, hein, pas la.
La noble, pas la normale. Hein.
D'accord.
La populaire.
Pas les serfs, quoi.
La noble. Voilà. Alors il va falloir l'utiliser juste avant d'éteindre la lumière, en fait. Donc elle se présente sous forme d'un petit flacon.
Sinon on prend feu ou.
Donc vous respirez votre.
Réagit au noir.
Vous respirez. Non, vous respirez. Vous éteignez la lumière. Pour vous coucher et vous respirez votre flacon.
Oui, t'as du peur, quoi.
En faisant 4 ou 5 grandes inspirations profondes. Parce que figurez-vous que les molécules de l'huile essentielle de camomille noble montent directement au cerveau et théoriquement vous dormez dans les 4 à 5 minutes.
Vous
qui tombez
suivent. Dans le flacon direct.
Mais
quoi.
Non, pas du tout, vous dormez tout de suite.
Le stress. Et on continue. Le magnésium.
Avec le magnésium cette fois-ci, parce que face à tout état de stress prolongé,
il faut
envisager une carence en magnésium. Ah, voilà, c'est un minéral indispensable à un bon équilibre nerveux. Alors, toute carence en magnésium entraîne en effet une augmentation des hormones du stress. Vous la connaissez d'ailleurs, l'hormone du stress ?
J'aurais dit la noradrénaline. Il y a le cortisol aussi qui joue.
Vous avez l'acronyme.
Non, mais il y a le cortisol également.
Exactement, mais c'est surtout la noradrénaline. Et donc, les symptômes de cette carence peuvent être les suivants : paupières qui tressaillent, crampes dans les mollets ou jambes sans repos, fatigue et irritabilité. Voilà.
Sympa.
Ce sont pour les parties naturelles. Maintenant, vous avez les thérapies brèves. Et oui. Donc, le but de ces thérapies brèves n'est pas de comprendre d'où vient le problème, mais c'est plutôt de savoir comment le supprimer. Alors, à votre avis, une des thérapies brèves qui est assez connue quand même.
Je sais parce que j'utilise.
Vas-y, dites-nous.
L'hypnose.
Exactement. Donc, cette technique vous plonge dans un état intermédiaire.
Rappelez-vous que ça résout pas du tout vos problèmes. Hein. On est bien d'accord.
Elle vient de dire que ça calme
les symptômes.
Bah, exactement. Voilà. Mais on ne cherche pas à savoir.
Prévu de régler mes problèmes.
Et donc cette technique vous plonge dans un état intermédiaire entre la veille et le sommeil. Voilà, docteur Marion, vous pourrez faire un témoignage en fin d'émission. Et c'est un état agréable de relaxation profond qui diminue rapidement l'impact de vos agents stressants. Voilà. Or sous l'hypnose, vous pouvez vous remémorer des événements oubliés. Voilà, ou à partir de là, un travail peut se faire pour libérer vos tensions face à un blocage ou une situation particulière, docteur Marion.
Par exemple.
Et contrairement aux idées reçues, l'hypnose ne vous fait pas perdre le contrôle de vous-même. On est d'accord, docteur Marion? Voilà. Et vous pouvez à tout moment interrompre la séance.
Évidemment. Enfin, si vous dormez pas déjà.
C'est ça. Voilà. Ah, vous payez quelqu'un pour qu'on vous fasse dormir. Bah oui, allez-y.
Il y a une deuxième thérapie brève. À votre avis,
le
non, c'est la sophrologie.
Voilà, cette méthode qui utilise la relaxation et la pensée positive est très efficace contre le stress car elle vous apprend à écouter votre corps, et ça c'est important, et à maîtriser votre respiration. Alors le travail de visualisation positive sur un événement ou une situation angoissante peut ainsi vous aider à relativiser et prendre de la distance.
Et voilà. Vive la médecine.
C'est génial, oui. On dirait vraiment une conférence au Club Med. C'est vraiment très sympa. Vous êtes en vacances et vous savez, il y a un Brésilien qui vient vous parler de. Je vais vous parler de la sophrologie. Ah, docteur Guillaume, mais qu'est-ce que vous faites là ? Respirez calmement. Et hop, et 5 coups de flacon et vous allez voir, vous allez dormir.
Bon, je reprends tout de même. Hein, pour relâcher les tensions, le training autogène de Schulz, voilà.
Ah oui,
est particulièrement recommandé, vous le connaissez. En fait, cet exercice basé sur la recherche de sensations de pesanteur et de chaleur dans le corps porte une profonde détente. Voilà.
Et alors, si la panique, voilà, si la panique prend le dessus, si ça marche
quand
toujours
la
pas.
Panique, voilà, que l'anxiété vous ronge, docteur Marion, et qu'il est temps de consulter, peut-être passer un traitement médicamenteux, les anxiolytiques.
Voilà, une bonne poignée d'anxiolytiques, généralement,
alors,
ça résout le problème.
Ils permettent de passer un cap, de vaincre le stress devenu omniprésent. Alors, les anxiolytiques ou tranquillisants mineurs sont, comme leur nom indique, des substances destinées à combattre l'anxiété et le stress. Dans tous les cas, il faut rappeler quand même que ces médicaments, s'ils peuvent être d'une grande aide ponctuellement, ne doivent généralement pas être utilisés à long terme, c'est important. Et on y trouve principalement les benzodiazépines.
Avec l'accent brésilien, s'il vous plaît.
Ce sera un peu difficile avec tous ces N, mais bon.
Donc les benzodiazépines, exactement.
On compte parmi eux le célèbre Lexomil, le Valium ou encore le Xanax. Voilà, ça, il faut aller voir votre médecin. Mais on a tendance à oublier une chose importante, mais la respiration reste la première arme anti-stress. Et attention, il ne s'agit pas de respiration rapide ou superficielle, celle que nous adoptons justement quand nous sommes stressés, mais il s'agit en fait d'une respiration profonde qui passe par l'abdomen.
Ah, je sens qu'on va faire un exercice là, docteur Guillaume.
Exactement, et le moyen le plus rapide pour évacuer le stress. Alors de plus, ça peut être utilisé dans n'importe quel lieu et n'importe quand, donc c'est-à-dire à présent tous ensemble. La technique assis ou debout.
C'est une sec.
Ah là là, bienvenue à la sec du docteur Guillaume.
Assis ou debout, nous sommes tous assis.
Changez l'écoute de votre radio, revenez dans 2 minutes avec la chronique docteur Léo.
Les épaules relâchées et le dos bien droit, s'il vous plaît. Voilà.
Faites-le aussi derrière votre poste.
Et là, exactement, tous ensemble. Inspirez lentement et profondément par le nez en gonflant votre abdomen. Jusqu'à 4.
Le stress.
Exactement. Et puis vous expirez doucement en comptant jusqu'à 8. Voilà, il y a seulement Marion qui est sérieuse. Hein.
Le stress.
Et voilà.
Stress,
vous vous sentez déjà mieux, n'est-ce pas ?
Stress,
ça a l'air.
Détendu.
Et vous pouvez répéter l'opération 2 à 3 fois. Voilà.
Le stress.
Merci, docteur Guillaume, en tout cas. J'ai l'impression qu'on est moins stressé. Hein. Et on parle aussi des traitements homéopathiques hein, pour lutter contre le stress. Ça marche
exactement.
Aussi avant de passer directement sur les benzodiazépines. Ça peut être
une
alternative exactement, qui peut avoir de bons résultats. Et des bons résultats, on en a justement avec votre piqûre de rappel, docteur Léo.
Maintenant, la suite de nos informations.
Tout aujourd'hui, jeunesse de France.
Mes chers compatriotes,
nous avons fait une perfusion continue des artères coronaires.
Et comme toutes les semaines, on écoute eh bien, cette voix qui n'a rien à envier à celle de Malraux. Hein, c'est celle du docteur Léo pour parler de l'agoraphobie.
Exactement, docteur Loïc. Aujourd'hui, on se penche sur la découverte, ou tout du moins sur la première fois où un médecin a mis un mot à qualifier la peur des grands espaces et lieux publics et par extension, finalement, la peur de la foule. Nous sommes en 1871 et le docteur berlinois Karl Westphal invente le thème agoraphobie après avoir constaté un sentiment de terreur extrême chez ses patients qui se rendaient sur des places publiques de la ville. Alors, petit détour étymologique au passage. Agora en grec, c'est
la place, hein.
La place publique,
la place, hein, ouais, c'est ça,
l'assemblée, même. Tandis que Phobos désigne
la peur.
Bien joué,
docteur Guillaume.
Pas mal, vous suivez. Alors, première précision, l'agoraphobie ne doit pas être confondue avec l'oclophobie, qui à proprement parler est la peur déraisonnée de la foule. Alors, techniquement, l'agoraphobe a surtout peur de se retrouver dans des situations, des endroits où il pourrait être difficile ou gênant de s'échapper. Pas besoin donc qu'il y ait forcément beaucoup de monde. L'oclophobe, lui, a peur de la foule en tant qu'entité même. Alors, si on prend un exemple quand même, vous êtes dans les souterrains du métro Place de la République. Il n'y a pas grand monde et vous avez des sueurs froides parce que vous ne trouvez pas la sortie. Vous êtes agoraphobe. Mais si vous êtes Place de la République un samedi soir de la nuit debout et que précisément parce qu'il y a trop de monde hein, qui cherche une alternative radicale et que là précisément vous avez des angoisses, alors soit vous êtes de droite, soit oclophobe. Mais on vous laisse choisir le mot qui vous convient.
Oui, exactement, pas mal. Vous pouvez être les deux d'ailleurs.
On peut être les deux, ouais, parce que. Enfin, on peut être de droite, oclophobe et agoraphobe même. Oui, parce que. Voilà. Par extension, l'espace public est fait pour recevoir du monde. Donc du coup, on peut, et pour bien perdre tout le monde, il y a des situations où justement l'agoraphobie et l'oclophobie peuvent jouer en même temps, et par exemple dans un amphithéâtre. Et à petite consultation entre amis, on vous imagine bien, chers auditeurs et étudiants, ça va aussi pour vous qui êtes sur le point de vous inscrire à l'université du temps libre, docteur Loïc, un peu paniqué au sein des premiers amphis de vos années universitaires noires de monde où les myelotis prennent des notes sur une tablette minuscule en jouant des coudes avec leurs voisins tandis que les autres sont agglutinés à mène le sol ou adossés sur un mur dans un amphi bouillant, mal sonorisé, mal éclairé et mal aimé. Alors il y a une solution facile pour résoudre ce problème si vous êtes oclophobe.
C'est de pas faire d'études.
Voilà, c'est bien, restez dans la rue, c'est tranquille. Donc il suffit donc plus simplement de revenir un mois après la reprise des cours et là vous pourrez, si ça vous amuse, prendre une rangée de l'amphi pour vous tout seul. Alors c'est plus problématique si vous êtes agoraphobe parce que vous allez toujours vous sentir extrêmement contraint. Et justement, si on revient sur l'agoraphobie, alors c'est un type de trouble panique. Un trouble panique, c'est une succession de crises d'angoisse aiguës pendant un mois ou plus et qui s'accompagne souvent d'une crainte perpétuelle d'en vivre une nouvelle, c'est-à-dire qu'on a la peur d'avoir peur.
C'est alors, un peu comme Johnny, l'envie d'avoir envie, quoi.
Voilà, exactement. Mais en moins cool. Donc voilà, et si c'est le cas, sachez quand même que le fait d'éviter les situations jugées stressantes ne fait qu'entretenir vos réactions de stress. C'est pour cela que les thérapies préconisées consistent en partie à exposer progressivement la personne aux environnements qu'elle appréhende. C'est un peu l'idée de boire une goutte de poison tous les jours pour être finalement immunisé. Et justement, en pleine période de nuit debout, buvez donc un peu des paroles du gouvernement tous les jours, vous en serez au final complètement débarrassé. Vous pourrez enfin monter à la tribune pour vous exprimer.
Merci, docteur Léo, wow. C'est beau, oh là là, mais quel poète,
quel poète.
Allez, c'est la poésie, hein. On écoute Serge Gainsbourg sur Radio Campus Paris, et toujours dans notre thématique, eh bien, contre le stress. Relax, baby, be cool.
Relax.
Stress. C'est sorti en 79. Hein.
Autour de nous, le sang coule.
Relax, baby, be cool.
À la mort, il y a fou.
Retour sur Radio Campus Paris, petite consultation entre amis, une émission spéciale stress. Et avant tout ça, on se fait un petit tour des infos qu'il faut. Alors, quoi de neuf, docteur Marion? Comme toutes les semaines, des journées mondiales à n'en plus finir. Alors là, on a 5 journées mondiales qui arrivent.
C'est l'enfer cette semaine. Ouais. Pour vous dire que j'ai vachement bossé ma chronique.
Première journée, c'est la journée mondiale de la santé du pied.
Oui, c'est aujourd'hui.
C'est bon ça. C'est oui. Le pied, j'ai envie de dire.
C'est le pied.
On a le droit, on n'est plus sous stress là.
C'est ça. Et du coup, j'invite nos chroniqueurs à se rendre très rapidement chez votre podologue, car aujourd'hui, c'est la journée gratuite en fait du conseil et du diagnostic.
Ah la vache, donc là il faut qu'on courir.
Enfin, courir. Il est 17h30, ah oui, à mon avis, ouais. À 19h.
Et donc c'est gratuit chez tous les podologues.
Alors, presque tous les podologues, j'imagine qu'il y en a quelques-uns qui vont pas se rater sur le prix de la consulte.
Et puis c'est des diagnostics.
Exactement, c'est un petit diagnostic. diagnostic. Et vous dire, bah,
vous avez, voilà, vous avez bien un ongle incarné, mais vous le soignez pas ? Bah non. Non, aujourd'hui c'est la journée diagnostique.
Voilà, et du coup, juste pour rappel, donc les personnes sur lesquelles les podologues pensent qu'il y a le plus de risques, en tout cas de la, au niveau de la santé des pieds, c'est les femmes enceintes, les adolescents en phase de croissance, les personnes âgées, les enfants de plus de 4 ans, voilà, qui doivent être examinés régulièrement, et puis bien sûr les diabétiques et les artéritiques.
Exactement, surtout voilà. Les diabétiques, hein, le pied diabétique est un vrai problème de santé publique, il
tout
faut le rappeler.
Tout à fait, puisqu'on comptabilise en effet 10 000 amputations de patients diabétiques par an.
Exactement, parce que ça s'infecte, alors je ne sais pas si vous connaissez le principe, hein, ils sentent plus.
Non,
mais ils sentent plus et ils peuvent donc marcher par exemple sur une punaise ou un clou, et voilà, exactement, le pas sentir et garder effectivement cette punaise ou ce clou pendant plusieurs jours, et ça s'infecte.
Tout à fait.
Et voilà, et comme il y a une mauvaise circulation sanguine, et bah du coup ça s'infecte et malheureusement on est obligé souvent d'amputer.
Voilà, donc vous pouvez retrouver plein d'informations comme ça, super intéressantes, sur www.santé-du-pied.org.
Et alors deuxième journée, c'est la journée européenne de l'obésité, c'est lundi 23.
Exactement, lundi 23, journée européenne de lutte contre l'obésité qui existe depuis 2010 et elle s'adresse à tous les publics concernés, d'ailleurs patients, personnel de santé, etc. Donc rapidement, une petite définition de l'obésité. L'obésité est définie habituellement comme un excès important de poids par augmentation de la masse graisseuse, pas musculaire bien sûr. Voilà, et l'obésité se définit par l'IMC en fait de la personne, ce qu'on calcule en divisant le poids en kilos par la taille au carré de la personne.
Voilà, vous prenez votre poids et vous le divisez deux fois par la taille.
Exactement.
Et donc l'IMC normal se situe entre 18 et 25, ouais, okay. Grosso modo, hein,
ça
entre
dépend
18
pour les
et 25.
Hommes et les femmes.
Ouais, à peu près, mais si on a une échelle de 18 à 25, c'est plutôt pas mal.
Voilà, tout à fait. Et donc, on comptabilise à peu près 1,4 milliard de personnes de plus de 20 ans dans le monde entier atteintes d'obésité.
Donc ça, c'est lundi, mercredi, c'est la journée mondiale de la...
Thyroïde.
Presque.
Oui, bah oui,
presque.
Oui.
Pas
loin,
pas
loin.
J'ai mal à ma thyroïde.
Voilà, donc l'origine de cette journée mondiale remonte à 2007 et c'était à l'occasion en fait d'un congrès organisé par l'Association mondiale de la thyroïde. Rapidement, en deux mots, donc à quoi ça sert la thyroïde ? En fait, il s'agit d'une glande située à la base du cou et qui a la délicate mission de produire des hormones régulent de nombreuses fonctions de notre corps humain.
Et la journée mondiale de la sclérose en plaques.
Exactement, le même jour, mercredi 25 aussi, tout à fait. Cette journée est consacrée à cette maladie qui est très invalidante, pardon. Près de 2 millions de personnes de par le monde sont atteintes par la sclérose en plaques. Maladie d'ailleurs particulièrement sexiste, puisqu'elle touche plus de femmes que d'hommes, avec une proportion de 1,7 femmes pour un homme.
À quand l'égalité, hein.
Oui, c'est ça, ouais, quand même, c'est fou ça.
Exactement.
Et dernière journée, on n'arrête plus ces journées, la journée nationale
du dépistage du cancer de la peau.
Donc ça, c'est le 26 mai.
Voilà, c'est une opération en fait de santé publique qui est parrainée par le ministère de la Santé et soutenue par l'Institut National du Cancer. Voilà, cette journée repose sur le volontariat de nombreux dermatologues, donc un peu comme la journée de la santé finalement des pieds. Hein. Ils assurent des consultations et des dépistages anonymes et gratuits dans toute la France.
Donc ça, c'est plutôt sympa et c'est le 26 mai.
Tout à fait. Et vous pouvez retrouver des informations sur www.syndicatdermato.org.
Un grand merci Docteur Marion pour ces infos qu'il faut, et on enchaîne justement avec notre expression rigolote.
O, D, I, maintenant L, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ?
Et on enchaîne avec l'expression, toujours dans notre thématique, liée au stress, faire un burn-out.
Et oui, on va encore se marrer dans l'expression rigolote cette semaine. Hein.
Mais oui, ben, c'est drôle.
Vous vous sentez fatigué et débordé, docteur Loïc. Vous vous sentez cynique et détaché de votre travail, docteur Guillaume. Vous êtes désinvesti de votre activité professionnelle au point de ne plus faire vos chroniques, docteur Marion.
Oh là là.
Eh bien, vous faites peut-être un burn-out.
Je crois, c'est ça.
Du coup, docteur Marion, elle va avoir l'excuse toute trouvée.
Ah ben, j'ai rien fait, c'est chaud. Burnout, là,
c'est le docteur Léo qui m'a dit
c'est
que
le
j'étais,
Léo
en
dit, j'étais un burn-out, du coup je suis foutu là.
Alors revenons un peu sur la définition, hein, quelle réalité le burn-out recouvre.
Alors en fait, traditionnellement, le burn-out est défini comme un syndrome à trois dimensions. Alors c'est un épuisement émotionnel déjà, vous êtes vidé, vous faites face à une fatigue extrême et les repos habituels dont vous disposez ne suffisent plus ou sont d'ailleurs sabordés par les milliers d'heures supplémentaires qu'au final vous ne récupérez jamais.
C'est exactement ça.
C'est ça.
Deuxièmement, vous éprouvez un certain cynisme envers votre travail, aux objectifs définis mais sans but, en conséquence de quoi vous désinvestissez progressivement.
C'est exactement ça docteur Guillaume.
C'est ça.
Et enfin, troisième dimension, vous sentez de plus en plus inutile, incompris, dévalorisé, en échec.
Non, c'est pas ça.
Dommage. Mais
pourtant, nous, on vous comprend pas, docteur Guillaume.
On a essayé de vous piéger là, et ça n'a pas marché. Enfin bref, si vous cumulez les trois, on vous souhaite la bienvenue dans la spirale négative du burn-out qui peut vous mener tranquillement vers ce voyage qu'on appelle la dépression, la suite du programme des réjouissances. Mais si c'est le cas, il faut prendre du repos et du recul, mais aussi parler, échanger. N'hésitez pas à dire si vous êtes tendu.
Tendu comme une crampe.
Mais non, je suis pas tendu.
Si t'es tendu.
Bah non.
Si je te dis que t'es tendu, c'est pas entendu, je suis pas tendu. Je te dis t'es tendu, Natacha, c'est tout. Tu me dis oui, Claudie, c'est vrai, je suis tendu. Je suis pas à mon aise. Il faut que tu te laisses venir vers moi. Et je viendrai te chercher, t'inquiète pas.
Vous voulez qu'on vienne vous chercher, docteur Loïc ?
Moi j'ai tendu, Claudie, j'ai tendu. Moi j'ai tendu parce que j'ai du mal à comprendre pourquoi on utilise ce terme anglo-saxon.
Et oui, on peut s'interroger sur l'expression même, c'est quand même le but de la chronique. Alors burnout, c'est un terme anglais, ça n'aurait échappé à personne, qui a été conceptualisé par un psychiatre.
Si, au docteur Marion, j'ai l'impression.
Conceptualisé donc par un psychiatre américain du nom de Herbert Freudenberg en 1975. On se croirait dans une piqûre de rappel. Hein. Du coup, on peut se demander si les États-Unis, dans leur grande mansuétude habituelle, ne nous ont pas exporté le burn-out en plus de leur poulet à la javel et des OGM. En réalité, c'est surtout parce que les Américains s'y sont intéressés les premiers. Puis il faut quand même dire que ça sonne un peu plus court que syndrome d'épuisement professionnel. Enfin, les Anglo-Saxons n'ont pas le monopole en la matière. Par exemple, les Japonais ont théorisé dans les années 50 le karoshi. Alors c'est moins sympa que le karaoké, et c'est le parce que le karoshi désigne la mort subite d'un travailleur suite à un surcroît de travail et un stress important par un infarctus du myocarde ou un accident vasculaire cérébral. Hein. Vous êtes bien sur Radio Campus.
Ah ouais, c'est sympa ça. Mais alors qu'est-ce que cela dit dans nos sociétés, le burn-out
hein. En fait, ça en dit quand même beaucoup. Comment se fait-il que ça d'entre nous explose en plein vol dans un travail qui les bride, qui les épuise, qui les stresse? Le burn-out, c'est la dernière réaction du sacrifié. C'est la prise de conscience que tout ceci n'est peut-être qu'absurdité, que la recherche de la qualité a cédé sa place à la recherche sans fin et sans faille de la quantité.
Sympa. C'est super sympa.
Le burn-out, le burn-out.
Et du coup, contre tout ça, ne vous laissez pas valser, détendez-vous.
On n'est pas bien, paisible, à la fraîche, décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander.
Eh ben merci docteur Léo. Et voilà. Bah oui, voilà, c'est ça. Donc le remède c'est Gérard, hein, c'est ça.
C'est voilà.
Le remède contre le burn-out. Allez, on a le temps de faire quelques brèves de salles d'attente. On part en Angleterre et deux enfants sont nés, un petit garçon a fait la connaissance de son petit frère. Mais par contre à 2 ans d'écart et un truc de fou.
Il a fait connaissance de son
petit frère.
Ils
et
sont
il est...
mélangés à la maternité, du coup, ils sont retrouvés 2 ans plus tard à l'hôpital pour.
Non,
une...
mais alors, ils ont bien 2 ans d'écart.
Ils ont 2 ans d'écart.
Et par contre, du coup, la maman et le père disent mais c'est incroyable, c'est fou. Ils se ressemblent tellement.
Non, ça veut dire qu'ils étaient jumeaux. Non.
Alors,
il y en a
oui,
un qui est resté plus longtemps.
Si. Et non, alors, ils sont jumeaux à 2 ans d'écart. Mais alors, comment c'est possible?
Comment?
Alors, techniquement, c'est quand même.
Il y en a un qui a été en gestation longue.
Moi, je suis resté 2 ans dans le ventre de maman.
Bah oui.
Ah,
bah oui, enfin, mais 2 ans et 9 mois, du coup.
Ouais, c'est ça. Non, absolument pas. Non, alors, c'est un peu technique, hein, ça, la fécondation in vitro. En fait, les parents ne pouvaient pas avoir d'enfants par voie naturelle. Ils ont fait une fécondation in vitro.
La première a fonctionné.
Ils ont gardé les embryons. Vous savez, on garde toujours les embryons. Et donc, du coup, ils ont fait, faire naître le deuxième embryon. Et ils savaient en fait que c'est 2 embryons identiques et sont 2 enfants jumeaux à 2 ans d'écart.
C'est fou.
C'est fou quand même. Donc c'est assez
étrange.
C'est assez
incroyable. Il y a un peu plus jeune.
C'est
quoi.
un peu bizarre. Allez.
C'est bien. On se voit vieillir finalement.
Oui, c'est plutôt sympa. On a le temps de faire une petite dernière. La justice. Interdit à une mère d'appeler sa fille
Facebook.
Non, pas Facebook.
Ça va être un truc avec la santé.
Ouais, c'est un truc avec la santé quand même.
Quand même.
Non, pas stéto. Quelque chose.
Syphilis.
C'est un produit. Non, c'est pas syphilis. C'est pas une maladie, c'est un produit.
Ah,
c'est un produit qu'on utilise vraiment pas du tout en médecine. On essaye de soigner ce produit-là. Mais par contre, si vous voulez tuer quelqu'un, c'est quand même bien efficace.
Cyanure.
Mal, docteur Guillaume.
Oui, j'ai déjà essayé.
D'accord. Très bien. Parfait. Et donc, oui, exactement. Du coup, pourquoi pas arsenic ou. Mais en tout cas, ça a été interdit par la justice. On peut pas appeler sa fille cyanure. En tout cas, Allez, c'est déjà la fin de. Petite consultation entre amis. Rappelons que vous pouvez retrouver plein d'informations sur le site www.radiocampusparis.org. Si vous étiez stressé, vous pouvez réécouter l'émission.
Et toutes les autres
également. Aimez notre page Facebook.
Oui, tout à fait.
Et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, on vous embrasse. Bisous. Ciao.
Salut. Salut. Bye bye.
Ciao.
saint